Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Au programme du pédalo ce soir, nous allons à l'abordage de la maison de l'environnement, une quinzaine d'événements organisés à l'occasion des journées du patrimoine. Avec nous dans les studios, Émilie Lafont, chargée de la programmation de la maison de l'environnement. En deuxième partie d'émission, on retrouvera Martin Collas qui va lancer, avec son acolyte Mathéo, un podcast, Grandir, produit par Radio Campus Angers. Mais ce soir, rien à voir, il vient nous parler d'éco-anxiété. Le pédalo passe au vert ce soir, ajustez votre gilet de sauvetage, c'est parti.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Émilie Lafont, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la chargée de programmation de la Maison de l'Environnement. La Maison de l'Environnement, rattachée à la ville d'Angers, hein, est un lieu de sensibilisation et d'éducation à l'environnement en plein cœur du parc du lac de Maine. Exposition, ateliers, spectacles, conférences en tout genre, elle ouvre ses portes à tout le monde à l'occasion des Journées du patrimoine les 17 et 18 septembre prochains. Pourquoi avoir axé la programmation autour de cet événement patrimonial alors que la Maison de l'Environnement n'est pas un lieu de patrimoine de manière générale?
Bah alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, déjà nous sommes dans un bâtiment historique, donc le logis de la Corne de Serre qui date de 1482. Donc l'idée c'est aussi de présenter une exposition qui montre justement l'histoire de la Maison de l'Environnement, l'histoire aussi du lac de Maine, on retrace un petit peu l'histoire du lac de Maine, et puis l'histoire de ce bâtiment, la Corne de Serre.
Au-delà de l'histoire de ce bâtiment, il y a plein d'événements qui sont organisés. Ça, par contre, c'était un choix de votre part, peut-être de se dire que l'environnement est notre patrimoine à toutes et tous.
Oui, exactement. On parle de patrimoine immatériel aujourd'hui, par exemple. Et puis, on a un patrimoine avec le jardin bio qui est quand même assez important en termes de flore, de faune, même les petites bêtes. Le patrimoine, ça peut se voir un petit peu partout, en fait. Et puis bon, cette année en plus c'est le patrimoine durable et nous on a aussi voulu l'axer sur le végétal parce que c'est aussi l'année du végétal à Angers, donc ça se recoupe en fait.
Est-ce que c'était une demande de la mairie d'organiser, que la Maison de l'Environnement organise ces journées du patrimoine aussi, ou est-ce que c'est à votre initiative?
Non, c'est vraiment nous qui avons aussi envie de nous insérer dans cet événement national et puis de pouvoir amener le plus de personnes possible à la Maison de l'Environnement, ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est vraiment une occasion pour ça.
Il y a déjà des inscrits?
Oui, alors les journées du patrimoine, normalement, c'est sans inscription, c'est vraiment ouvert à tous. Mais nous, on a certaines animations qui sont sur inscription. Donc oui, là, on a déjà des inscrits, il y a encore quelques places disponibles.
On va détailler un petit peu la programmation de ces journées européennes du patrimoine à la Maison de l'Environnement. Et donc, effectivement, ça commence avec ce logis de la Corne de Serre. C'est un bâtiment qui date de 1482. Mmh. Comment est-ce que vous allez le présenter? Est-ce que vous avez des archives? Vous avez retrouvé des pièces d'histoire, des documents?
Oui. Bah alors justement, il y a toute une exposition sur ce bâtiment, à quoi il servait avant, et puis aussi la Maison de l'Environnement, du coup, qui a 30 ans. Et puis le lac de Maine aussi, il a énormément évolué. Donc, il faut venir voir cette exposition qui sera le dimanche 18 septembre à la Maison de l'Environnement. Donc nous, on a une programmation uniquement le dimanche, on est ouvert que le dimanche.
Il y a un spectacle également qui va être proposé qui s'appelle Mouton d'arbre. Mmh. C'est très énigmatique puisque sur votre site internet, quand même, il y a très peu d'explications sur ce que sont tels ou tels événements. En l'occurrence, là, il y aura trois sessions, donc ça, c'est sur inscription. Mmh. Qu'est-ce que c'est que ce spectacle? Vous dites que c'est un poème visuel.
Oui, bah, je pense que c'est volontairement un petit peu abstrait parce que le spectacle en lui-même, il est un petit peu abstrait. Et donc, on a reçu pendant deux semaines des artistes en résidence, la compagnie Vent Vif. Et donc elles ont choisi un espace naturel sur le lac de Maine et à partir de cet espace elles ont créé un spectacle qui pour le coup se veut vraiment poétique. Ça interroge toujours notre rapport à la nature, mais c'est vraiment très poétique. Faut pas forcément chercher des explications scientifiques, faut vraiment se laisser porter par leur démarche. Voilà. Il y a du théâtre, il y a du dessin, il y a des petites choses qui sont montrées. Donc voilà.
Donc ça, c'est évidemment toujours le 18, donc oui. Vous, c'est que le dimanche, et pour toute la, alors j'allais dire la billetterie, c'est pas vraiment une billetterie, puisque c'est gratuit, mais en tout cas pour s'inscrire, c'est sur le site de la Maison de l'Environnement.
Alors non, du coup pour s'inscrire, c'est sur Destination Angers, le site de billetterie de l'Office de Tourisme en fait.
Autre événement sur inscription, le Compost Game, donc c'est une sorte d'escape game, hein, je suppose, où là, l'idée, c'est de sensibiliser au compost. Alors, je sais que la ville d'Angers est assez engagée dans toutes ces thématiques-là, puisque, pareil, elle fait la distribution moyennant une vingtaine d'euros à qui en veut bien pour avoir chez soi un lombricomposteur. Mm-hmm. Voilà, c'est des thématiques qu'on retrouve de manière assez générale. Comment ça va se présenter, là, cet escape game autour de la thématique du compost ?
Bah alors, vous avez des codex, des énigmes à résoudre, un peu comme n'importe quel escape game. Vous êtes à l'extérieur, du coup, et il faut trouver, voilà, vous avez des questions, des réponses, il faut ouvrir des coffres, donc ça va être...
Donc l'idée, c'est de sensibiliser quand même au
oui,
compost.
Oui, tout à fait, au compost, aux biodéchets, vous êtes dans l'espace du jardin, donc...
Quelles énigmes peut-il y avoir autour du compost ?
Il faut venir voir.
Vous proposez aussi des événements beaucoup plus, j'allais dire, guillerets, beaucoup plus légers que ces spectacles, ce compost game, puisqu'il y a aussi un aspect de création. Donc on peut à la fois venir déguster et faire ses fouets, venir créer ses colliers végétaux, ses couronnes de fleurs. Voilà, c'était aussi important qu'il y ait cette notion de faire quelque chose de ses mains.
Oui, nous, on a beaucoup d'ateliers sur le do-it-yourself. Alors, d'habitude, toute l'année, ça peut être sur de la couture, les produits ménagers, les produits de beauté, etc. Mais on a beaucoup toute une partie au niveau de la nature, bien évidemment, de la biodiversité. Et on veut aussi que les gens, comme vous dites, soient vraiment dans l'action pour se rapprocher aussi de la nature. Donc là, l'idée, ce sera de participer à une sculpture végétale collaborative qu'on laissera ensuite sur la Maison de l'Environnement, dans notre jardin. On pourra aussi faire des feuilles frappées. Donc c'est une technique, on frappe des végétaux sur du tissu et là, vous pourrez repartir avec votre petit sac à vrac.
Comment ça, on frappe des végétaux sur du tissu?
Vous choisissez des fleurs, des feuilles.
Donc par exemple, je me balade dans la nature, je trouve une feuille de chêne absolument sublime que j'ai envie de mettre sur mon t-shirt blanc.
Oui, alors là, pour le coup, ce ne sera pas forcément sur votre t-shirt. Il y aura des petits tissus qui seront prévus ou sinon des sacs à vrac. Mais je pense que cette technique, oui, après,
et
vous pouvez
la
reproduire.
Et c'est la feuille vraiment qui
oui,
sera
sur... Oui, on va la frapper, on va la taper. Après, je pense que si elle est trop sèche, ça ne va pas fonctionner. Il faut quand même qu'elle se soit un végétal qui est encore un peu vert ou un peu frais. Mais du coup, oui, à force de la frapper,
en faisant un recto verso, en fait,
oui, ça va s'incruster. Ouais.
Incroyable.
Donc voilà, et puis après de la décoration aussi, comment décorer chez soi un petit peu avec la nature, plein d'ateliers.
Dégustation de fouet, alors rien à voir, là on sort vraiment, il fallait manger quoi.
Bah, la fouet c'est aussi le patrimoine,
oui, c'est
traditionnel. Et justement nous dans notre bâtiment ancien du 15e siècle, on a un four traditionnel. Donc là c'est encore plus l'occasion de parler des fouets, de l'histoire de notre four, de la recette des fouets. Voilà, on aura des petits jeux questions-réponses autour des fouets pour mieux les connaître, mieux connaître cette histoire-là. Et la dégustation de fouets, on la fait très généralement quand on a des événements, parce qu'on trouve que c'est un événement, on trouve que ça rassemble en fait, que ça permet de manger tous ensemble, de boire un jus local, voilà.
Qui seront les personnes qui viendront pour organiser tous ces, pour faire participer les Angevins et les Angevines à ces ateliers ? C'est des intervenants extérieurs ? C'est vous, les salariés de la Maison de l'Environnement ?
Alors, les salariés, une partie, et puis après, on a beaucoup de partenaires. On travaille notamment alors, sur l'Escape Game avec Cocyclé. On travaille aussi avec l'appel du végétal, on a Nature Acidulée, enfin voilà, on a vraiment beaucoup de partenaires dans le domaine de la nature, de la sensibilisation.
Il y a également une visite prévue autour de la mythologie des arbres. Mmh. Alors parlons-en un petit peu. Qu'est-ce que vous allez mettre en valeur à ce moment-là? Le fait que il y a beaucoup de clichés. Alors faisons un câlin à un arbre, écoutons son cœur battre. Est-ce qu'on sera dans ces clichés-là? Est-ce que ce sera autour de la mythologie, des personnages mythologiques végétaux?
Bah, on va être à la fois sur le côté connaissance, connaître un petit peu mieux les arbres, les noms, etc. Côté scientifique. scientifique, et après le côté mythologie, ça va être des histoires en fait autour des arbres. Voilà, donc on est vraiment sur le côté un peu conte, un peu fabuleux, qu'est-ce qu'on peut raconter sur les arbres. Donc c'est vraiment les deux pendant en fait.
Ça s'adresse aux enfants principalement?
Non, pas du tout. C'est vraiment tout public et même plutôt aussi adulte.
Par contre, destiné aux enfants, enfin ceci étant dit les adultes aussi, maquillage à la peinture végétale.
Oui, ça c'est vrai que c'est plutôt destiné aux enfants. Oui, c'est vrai. À moins que vous ayez envie de vous faire une petite fleur sur la joue.
Et donc cette peinture végétale, c'est de la peinture faite à partir de oui. fleurs que vous allez trouver autour du lac de Maine ou
Non, pas forcément. Là, pour le coup, ça va être à base d'épinards ou de betteraves, etc. Voilà, des choses qui sont quand même très colorées. Si on veut du rouge, bon là c'est pas la saison, mais ça peut être du coquelicot.
Vous proposez de manière régulière à la Maison de l'Environnement des ateliers autour justement de cette connaissance des fleurs et des végétaux qui nous entourent, notamment un atelier autour de la reconnaissance des végétaux pour ensuite les manger. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir aussi retrouver à l'occasion de ces journées du patrimoine?
Alors non, pas sur les journées du patrimoine, par contre c'est un atelier qu'on propose très régulièrement dans l'année. Il y a vraiment plusieurs dates, il y a deux ateliers autour des plantes sauvages, donc il y en a un où c'est vraiment une balade à l'étang Saint-Nicolas pour connaître, apprendre à reconnaître les plantes, connaître quelques usages, et on a un autre atelier où là du coup c'est une balade au lac de Maine pour connaître, reconnaître les plantes, et après on vient en cueillir quelques-unes au jardin bio pour faire une recette de cuisine.
Voilà, ça s'appelle alors l'équivalent qu'on pourrait trouver à l'occasion de ces journées du patrimoine, ce serait suivre le jardinier. Puisque on peut suivre la reconnaissance des végétaux, alors en l'occurrence ce ne sera pas pour les manger.
Oui. Oui, suivez le jardinier pour le coup, donc c'est vraiment discuter avec nos éco-jardiniers. Donc comme je vous disais, on a la chance d'avoir ce jardin bio qui fait 4000 m2.
Qu'est-ce que c'est un éco-jardinier?
c'est un jardinier animateur, donc ils entretiennent le jardin, ils font en sorte qu'il vive, qu'il soit beau, etc. Mais ils sont là aussi pour discuter en fait avec le public qui vient, pour donner des conseils, pour donner des idées et apporter le côté justement écologique. On est dans la permaculture, on est dans le jardin permanent, voilà, essayer d'être en phase avec la nature. Donc c'est tout ça qu'ils donnent dans leur discussion. Donc c'est ouvert toute la journée de 11h à 18h pour accéder au jardin. Et après vous avez des visites guidées l'après-midi toutes les heures. Donc là c'est vraiment un moment, on fait la visite du jardin, de comment il a été créé, etc., comment il est pensé aujourd'hui.
Un autre spectacle qu'il va y avoir, c'est le spleen du roi René. Donc le roi René, évidemment, un personnage historique angevin dont on ne présente plus. Là, en l'occurrence, il a l'air malade, mm-hmm. il a l'air d'avoir le spleen. Qu'est-ce qui lui arrive à ce bon vieux roi René?
Ah ben, je crois qu'il déprime un petit peu, hein. Et donc sa femme va essayer de l'aider. Il y a son médecin qui rentre aussi dans l'histoire. Donc voilà, c'est des marionnettes. Ça va être vraiment dans l'écrin dans végétal du jardin. Donc ça va être, je pense, assez joli. Et bon, contrairement à ce qu'on peut penser, la marionnette, c'est pas réservé aux enfants. C'est vraiment tout public. Et puis là, pour le coup, c'est aussi assez drôle, assez humoristique.
Angers, ville du végétal, année du végétal de surcroît. Comment est-ce que vous vous saisissez de cette thématique à la Maison de l'Environnement au cours de l'année dans votre programmation?
Alors nous, on parle vraiment du végétal un petit peu tout le temps, justement, avec le jardin bio. Donc, comme je vous disais, on a vraiment envie d'être un lieu ressource pour la permaculture, pour l'agriculture urbaine, que les angevins et même les non-angevins puissent venir se balader, mais aussi apprendre des choses. Donc vraiment, on veut que ce jardin, il soit connu de tous, qu'il soit ouvert à tous. Donc tous les jours de 14h à 18h, sauf le samedi et sauf les vacances de fin d'année. Et sinon, par exemple, on met en place un dimanche par mois des ateliers permaculture, donc avec nos jardiniers, mais aussi avec des agriculteurs qui viennent d'ailleurs. En ce moment, on travaille avec Choupomme et compagnie. Et donc l'idée, c'est à chaque fois d'avoir une petite thématique spécifique. On aimerait bien travailler autour de comment adapter son jardin au réchauffement climatique. Donc voilà, c'est vrai que le végétal, nous, il est omniprésent.
Comment on fait pour adapter son jardin au réchauffement climatique?
Il faudra venir poser la question à nos jardiniers. Mais bon, il y a le paillage, il y a la récupération d'eau, la sélection probablement de certaines espèces qui vont résister un petit peu mieux à la chaleur. Voilà, il y a encore plein de choses à trouver. Et pour discuter avec des agriculteurs, d'ailleurs, ils ont été assez déboussolés avec cet été. Et donc, justement, eux se posent la question de qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver pour s'adapter. Donc, on a vraiment envie de travailler avec eux pour trouver des solutions et les montrer au public.
Est-ce que vous sensibilisez également Terra Botanica, qui en pleine canicule fait de... Comment ils ont dit ça ? De la pulvérisation d'une bruine en pleine canicule. Peut-être que c'est aussi des choses que vous pourrez leur transmettre, que c'est des choses qui ne se font plus.
En tout cas, bah, nous, on essaie vraiment d'essayer d'appliquer les règles. Voilà, je sais que tout ce qui était arrosage, ça se faisait la nuit. Voilà.
Monsieur Christophe Béchu, maire d'Angers, donc actuellement premier adjoint, est au gouvernement en tant que ministre de la Transition écologique depuis maintenant quelques mois. Qu'est-ce que ça change pour vous à la Maison de l'Environnement ?
Alors concrètement, pour l'instant, voilà, on continue ce qu'on faisait déjà.
Est-ce que vous avez des attentes particulières peut-être de son action au gouvernement, puisque vous avez quand même travaillé avec lui pendant de nombreuses années ?
Oui, bah, et bien sûr, on a tous envie de passer la cinquième vitesse. On a vraiment envie que les politiques, que les entreprises, que toutes les personnes que nous sommes s'impliquent pour faire en sorte d'être un peu moins atteints par ce changement climatique, pour s'adapter. Mais c'est sûr que pour moi, le mot important, mais là, tout le monde le répète en cette rentrée, c'est la sobriété. Donc, essayer de consommer différemment. On parle aussi beaucoup d'éco-anxiété, notamment chez les jeunes. Ce que j'entendais, c'est qu'il faut vraiment agir. Il faut vraiment... voilà, on a l'impression qu'on est écrasé sous ce poids-là. Mais non, il faut vraiment que chacun agisse à sa manière et agir aussi dans le collectif. Ça, c'est très important.
Éco-anxiété, on en parle juste après avec Martin. Martin, bénévole à Radio Campus, qui nous gratifiera d'une chronique, justement, sur l'éco-anxiété. Christophe Béchu, vous avez travaillé assez étroitement avec lui pendant ces dernières années. Cet été, donc évidemment, canicule, incendie un peu partout, il a fait face à une vague de critiques assez forte. Est-ce que vous qui avez travaillé avec lui pendant de nombreuses années, vous estimez que ces critiques sont légitimes ? Ou est-ce que pour vous, finalement, la situation climatique est telle qu'elle est et qu'on ne peut plus maintenant que la subir ?
Alors, vous savez que moi, j'ai pas le droit de porter vraiment un jugement sur mon patron, entre guillemets. J'ai un droit de réserve. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il vient d'arriver en poste. Je pense qu'il faut que chacun prenne ses marques, que c'est un chantier énorme, la transition écologique. Mais voilà, c'est sûr que maintenant, il faut qu'on s'y mette tous. Il faut, comme je vous disais tout à l'heure, il faut vraiment qu'on passe la vitesse supérieure. On a plus le choix.
Est-ce que vous avez l'impression qu'Angers a passé la vitesse supérieure ces dernières années ?
Bah, je pense qu'Angers met des choses en place, c'est sûr, avec les assises de la transition écologique. Après, on peut toujours améliorer, par exemple, au niveau des pistes cyclables, au niveau des transports en commun. Bon, là, il y a deux voies de tramway qui sont en train d'être créées. Mais voilà, il faut toujours faire plus, toujours faire plus.
Je voudrais vous faire écouter un reportage tourné il y a quelques mois dans votre structure à l'occasion de Fou d'Angers, un reportage de Sofia Pavanini pour Radio Campus.
À quelques kilomètres du centre-ville d'Angers et à quelques pas du lac de Maine, entouré de verdure, la Maison de l'Environnement porte bien son nom. Cet établissement de la ville d'Angers organise tout au long de l'année des ateliers pédagogiques, des activités sur le jardin bio qui l'entoure et surtout une programmation adressée à tous les publics pour sensibiliser au respect du vivant. Découverte du lieu dans le cadre du festival Fou d'Angers.
Corinne Amigouette et je suis responsable de la Maison de l'Environnement de la ville d'Angers, en fait, qui est un service de la ville, qui est chargé de sensibiliser les publics à la transition écologique. On traite beaucoup de sujets de la transition écologique, donc c'est très vaste. Et chaque année, en fait, notre programme varie en fonction des partenariats qu'on peut nouer avec les uns ou les autres. On va dire qu'on est orienté sur le grand public. Donc des animations grand public qui sont beaucoup cette année, en fait, autour de la biodiversité, de la nature, du végétal.
Et ça, nous, on les coupe un petit peu. Il y a une planche pour ça qui doit être là-bas.
Fou d'Angers, c'est une opération de la ville d'Angers qui existe depuis 5-6 ans déjà et qui célèbre, on va dire, la gastronomie et les vins de Loire. Et ce que nous ont demandé les collègues de la communication de la ville d'Angers, qui organisent l'événement, en fait, c'est de faire vraiment précisément un événement pour les familles et un événement sur la consommation responsable. Donc, à partir de ça, on a fait tout un canevas sur la journée avec les partenaires. Donc là, on a 5-6 partenaires qui collaborent à la journée.
Vous allez prendre votre tranche et vous allez
bien. Là, on a Bruno Couder qui est en train de faire une dégustation aussi et puis à apprendre aux gens comment cuisiner et végétal.
Choisissez celle qui vous plaît et puis vous trouvez les ingrédients ici.
Je suis en train de faire une recette de rillettes de haricots rouges aux noix. Je me suis dit que ça pouvait être marrant d'essayer d'autres recettes, des choses voilà, végétales, avec les fonds de placard.
Alors, je suis en train de faire une pâte à tartiner coco choco. J'ai vu qu'il y avait quelque chose de proposé par Food Danger et comme mes enfants sont là ce week-end, et ben on s'est inscrit et voici, on tartine.
Nous, notre programme, il est vraiment fait pour les familles. Les familles et les enfants, c'est vraiment ce qu'on cible au départ. Enfin, en tout cas pour le grand public. C'est pour ça qu'on cible vraiment, par exemple, les vacances scolaires. La Maison de l'Environnement, elle existe depuis 30 ans. Et il y a 30 ans, c'était finalement le début de plein de choses sur la transition écologique. Je dirais pendant longtemps, on s'intéressait beaucoup à la nature, à la biodiversité. Aujourd'hui, on sent qu'on évolue sur des sujets encore différents, un peu plus graves, je dirais, comme le climat, comme la réduction des déchets, parce qu'il y a 30 ans, ces problèmes-là n'étaient pas aussi peut-être prégnants. Donc l'évolution, on la sent depuis 2-3 ans en effet, enfin en tout cas dans la prise de conscience des gens qu'il y a quelque chose à faire. Et nous, on essaie d'accompagner ce mouvement, aux côtés de la ville d'Angers, d'Angers-Loire Métropole, qui mettent en place des politiques. Sauf que tu mets en place des politiques, mais ce qui est important, c'est aussi que les gens comprennent et qu'ils sachent quoi faire, en fait. Et donc, c'est là que nous, on intervient pour essayer d'accompagner les gens sur la compréhension des enjeux et sur le « qu'est-ce que je peux faire ?».
Pour en savoir plus sur la Maison de l'Environnement et sa programmation, rendez-vous sur le site angers.fr/mde.
Un reportage de Sofia Pavadini à retrouver sur le www.murmureaupluriel.org. Émilie Lafont, est-ce que vous vous êtes reconnue dans ce reportage ?
Oui, oui, tout à fait, c'est très juste. Et puis ça me fait penser aussi au prochain Food Danger, pour le coup, qui va avoir lieu début février. Donc voilà, là on est déjà dans la programmation et on a encore envie de parler d'alimentation végétale. On n'est pas du tout pro-vegan, mais on pense vraiment qu'il faut consommer moins de viande, donc donner des idées justement pour manger plus de végétal.
L'environnement passe donc évidemment, et c'est illustré parfaitement avec Food Danger, par plein de facettes différentes, notamment l'alimentation, notamment la réduction des gaz à effet de serre. Est-ce que vous attaquez à toutes ces facettes ou vous avez des cibles un peu privilégiées ?
Alors c'est vrai que nous, au départ, la maison d'environnement, c'était la maison de la nature. Donc on a quand même un gros axe biodiversité, nature, jardin, qu'on conserve parce qu'on trouve que c'est très important, la préservation de la biodiversité. Et puis qui dit jardinage dit alimentation, agriculture aussi, mais on veut vraiment pouvoir traiter de tous les sujets, que ce soit la mobilité, que ce soit le logement. L'année dernière, on a eu une exposition qui s'appelait « Mieux chez moi », où on montrait que c'était possible de se loger avec de la récup, des choses trouvées en déchetterie.
Ça va peut-être donner des idées aux étudiants qui ont du mal à se loger, là.
Oui, effectivement. donc, on a vraiment envie de pouvoir traiter de tous ces sujets qui sont importants.
Merci beaucoup, Émilie Lafont, d'avoir répondu à nos questions sur Radio Campus Angers. Je le rappelle, une quinzaine d'activités à la Maison de l'Environnement à l'occasion des Journées du Patrimoine, en l'occurrence de la Journée du Patrimoine, puisque ça se passe le 18 septembre prochain à la Maison de l'Environnement. Merci beaucoup.
Merci à vous.
We'll be right back.
Il est 18h27 sur les ondes du 103 FM. Vous venez d'écouter Magone avec son morceau A Night in Bethlehem. Avec nous dans les studios, Martin. Salut Martin.
Salut, ça va?
Bah super, et toi?
Trop bien.
Eh bah écoute, c'est ta première chronique.
Exactement.
Campus, bah bienvenue.
Merci.
Bienvenue, une petite émotion.
Toutes les émotions.
Toutes les émotions passent évidemment par ton esprit quand tu arrives au micro, c'est évident. Moi aussi, à chaque fois ça m'émeut. Ce soir, tu vas nous parler de l'éco-anxiété. La semaine dernière, tu t'es diagnostiqué avec un pote comme éco-anxieux. Peut-être que tu vas commencer par une définition de ce que c'est l'éco-anxiété.
Ouais, comme tu le sais, tous les ans, des mots font leur entrée dans le dictionnaire de la nouvelle édition du Robert et on retrouve notamment l'éco-anxiété. C'est donc l'anxiété provoquée par les menaces environnementales qui pèsent sur notre planète. Pour nous, il faut savoir que c'est un mot très récent dans nos esprits, bien que le concept soit apparu en France en 1997 grâce à la chercheuse Véronique Lapège. On voit que les courbes de son utilisation augmentent seulement depuis 2019. Ainsi, les premiers groupes de recherche et les premières enquêtes viennent tout juste d'être lancés.
Est-ce que ce terme veut vraiment dire quelque chose, puisque c'est quand même un terme très récent, donc on peut quand même se poser la question
Bah ouais, carrément en fait. Si aujourd'hui la moitié des jeunes se disent éco-anxieux d'après une étude internationale, c'est surtout une réaction tout à fait normale. Face aux enjeux climatiques qui nous guettent, on peut voir l'éco-anxiété comme un stress pré-traumatique. L'éco-anxiété est souvent associée par erreur à la solastalgie. Bien que leur sens se ressemble, la solastalgie correspond à l'expérience vécue d'un changement climatique. C'est donc une réaction à une situation antérieure. On ne peut pas les associer et les considérer comme des synonymes. Une personne éco-anxieuse, elle, peut donc souffrir de troubles comme des crises de panique, des insomnies, des angoisses. Ça peut aussi affecter son alimentation, survenir par des émotions négatives. Ça peut être la peur, la tristesse, l'impuissance ou encore des pensées obsessionnelles. Pourtant, ce n'est pas considéré comme une maladie mentale.
D'après la Fondation Jean Jaurès, ce sont 20 à 30% des Français qui sont éco-anxieux si jamais on sort des jeunes. Quels sont les risques pour la santé?
Alors, la Fondation Jean Jaurès, elle étudie les effets des inquiétudes dues au climat et elle rapporte 3 risques liés à l'éco-anxiété. Le premier, c'est le déni. Pour des raisons idéologiques, cette angoisse n'est pas prise en compte ou minimisée. Ensuite, il y a ceux pour qui les émotions vont affecter leur santé mentale, comme on vient de le voir. ce qui est un versant positif, celui de la prise de conscience et de l'action. Un effet jugé nécessaire par de nombreux chercheurs. Et enfin, il y a des risques pour que l'éco-anxiété soit détournée de manière à servir des actions idéologiques, politiques ou commerciales.
Donc si je comprends bien, tout le monde devrait être éco-anxieux pour faire bouger les choses.
Ouais, l'actualité récente démontre que l'éco-anxiété, tout comme le dérèglement climatique, ne sont pas encore pris au sérieux. Reprenons les trois risques et illustrons-les.
Alors, le déni pour commencer.
C'est quand, en conférence de presse, l'icône actuelle du football français, Kylian Mbappé, éclate de rire et que son entraîneur au Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, répond avec un ton condescendant au journaliste qui a posé une question écologique du grand dans le look-up.
Ensuite, il y a la prise de conscience.
Ce sont toutes les actions qui ont pour but de sensibiliser au sujet de l'écologie. C'est le cas récemment du compte Instagram L'Avion de Bernard, qui mettait en lumière l'absurdité des petits déplacements de Bernard Arnault, président du groupe LVMH, lorsque son avion était à l'époque immatriculé en France.
Et oui, c'est très récent, ils ont perdu sa trace.
Exactement,
l'avion a disparu des radars. Et enfin, il y a l'instrumentalisation.
Ouais, c'est quand ce week-end, pendant l'événement caritatif du The Event, des streamers se sont sentis instrumentalisés par le président de la République et son message annuel de félicitations, alors que l'État, de son côté, a été condamné pour inaction climatique.
Donc on l'aura compris, l'éco-anxiété, c'est un mot important dont on n'a pas fini d'entendre parler.
Et oui, même pour nous, journalistes ou futurs journalistes, qui devons nous interroger sur le lexique utilisé dans les médias, comme le stipule la nouvelle charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique.
Merci beaucoup, Martin, et puis à très bientôt dans ton nouveau podcast Grandir, produit par Radio Campus. C'est déjà la fin de ce pédalo. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve dès demain à bord de notre embarcation favorite. On parlera nucléaire, Zaporijja et crise énergétique avec l'association Sûreté Nucléaire 49. En tout cas, d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.